Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
Église d'aujourd'hui, une émission de Régis Burnet.
Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Elle est la première femme de lettres anglaise. Elle a rendu la ville qu'il a vue naître extrêmement célèbre dans tout le monde anglo-saxon. Elle est citée par les poètes contemporains et pourtant, elle est quasiment inconnue chez nous. Il s'agit de Julienne de Norwich, une femme née en pleine peste noire au XIVe siècle, qui vécut une existence de recluse et de mystique. Qui était-elle? Nous allons le savoir grâce à mon invité du soir. Bonsoir, sœur Emmanuelle Biotto.
Bonsoir.
Vous êtes théologienne, vous êtes traductrice et on vous a par téléphone parce que vous êtes ermite. Et vous venez de faire paraître un livre, Julienne de Norwich, recluse et mystique aux éditions Salvator. Alors peut-être d'abord, est-ce que l'on peut présenter cette fameuse Julienne de Norwich?
Oui, alors Julienne de Norwich, en fait, ou de Norwich, les Anglais disent de Norwich, reste un mystère tout de même. Hein. On a très peu, il n'y a pas du tout de géographie la concernant. Mm-hmm. En fait, on a deux textes. En fait, c'est ces deux textes qui nous permettent de l'atteindre avec deux notes, en fait, deux notes du scribe qui dit qu'elle était recluse à Norwich. Et si vous voulez, ça concorde aussi avec des testaments dans lesquels on voit qu'il y a des donations à une recluse nommée Julienne à Norwich. Mais on ne sait quasiment rien de sa vie, si vous voulez.
Norwich, voilà. Norwich, c'est où? Où est-ce que...
Alors, c'est au nord-est de Londres, en fait. Hein. C'est quand on monte un peu au-dessus de Londres. Voilà. Et alors, si vous voulez, c'était une arrivée de Saint-Port. C'était une ville portuaire à l'époque. Et un port qui fonctionnait beaucoup avec les ports de l'Europe du Nord à une époque où la guerre de Cent Ans fermait les ports du Sud.
On est autour des années 1350, 1420, en gros, hein, pour aller pour très, très largement donner les bornes de sa vie.
Oui.
C'est une période extrêmement difficile. C'est pas drôle du tout.
Non, c'est une période difficile. Donc, il y a la guerre de 100 ans avec tout ce que ça peut entraîner de problèmes économiques et financiers. Vous avez la peste noire qui ressurgit de temps en temps. Il y a une grosse épidémie et puis ensuite des résurgences. Vous avez des problèmes d'épizootie, c'est-à-dire de maladies du bétail. Enfin, ça s'est beaucoup accumulé. C'est vraiment ce qu'on appelle l'âge noir, hein, si vous voulez. C'est vraiment un âge extrêmement difficile, un temps d'angoisse où les gens ne savaient pas trop comment se situer. Et où la prédication de l'Église, en plus, jouait beaucoup sur la peur, sur la punition de Dieu, etc., etc. Donc, c'est un âge très angoissant, d'une certaine façon.
C'est un âge aussi où, comme vous venez de le dire, l'Église a une puissance assez, assez considérable. Et en même temps, on voit qu'il y a des gens souvent laïcs, enfin qui ne sont pas forcément des clercs, qui essaient de peut-être de soulever un peu la tutelle ecclésiale, qui essaient de vivre un peu éloigné de cette hiérarchie extrêmement pesante.
Alors, si vous voulez, en fait, ça commence le siècle d'avant, hein, où il y a des mouvements laïcs justement qui ne se retrouvent plus dans la liturgie de l'Église, qui est très très alourdie. Qui a été très alourdi par les réformes carolingiennes, et donc qui ont un désir, par contre, d'une expérience vive de Dieu et du Christ. Et donc, ils vont se regrouper, aussi bien clercs que laïcs, et essayer de d'approfondir leur expérience de Dieu avec une station de psauté, avec en ayant une prière personnelle forte, très centrée sur le mystère du Christ, de la Vierge, etc. Voilà, parce que la liturgie ne correspond plus, parce que la liturgie, bon voilà. Et alors parallèlement à ça, vous avez aussi en Angleterre, disons, mais il y a l'équivalent sur le continent européen, un mouvement contestataire beaucoup plus fort du côté des Lollards, ce qu'on appelle de John Wycliffe, qui va remettre en question le fonctionnement de l'Église, l'amalgame Église-État, enfin bon, un certain nombre d'éléments qui seront repris après par la réforme ou par les réformes dans des siècles ultérieurs.
Et donc, justement, cette Julienne de Norwich, alors on ne sait pas très bien à quel mouvement elle appartient, mais elle, on a l'impression que c'est une laïque. On a l'impression qu'elle n'est pas, religieuse.
A priori, non, si vous voulez. Bon, dans le contexte où elle raconte sa maladie, hein, donc, qui va être à l'origine de cette expérience mystique, manifestement, elle est visitée par un prêtre, et le mot anglais, ça correspond au prêtre de paroisse. Elle est assistée de sa mère, elle reçoit la visite d'un religieux, donc elle n'est pas dans le cadre d'une institution monastique. Voilà, donc, ni dans l'ermite, au moment de cette, enfin, dans la recluserie, au moment de cette expérience. En fait, on pense qu'elle est laïque. Vous voulez, ce qui est assez intéressant quand on l'approche, c'est que finalement, chacun y va avec beaucoup de subjectivité. Et vous avez, par exemple, deux éditeurs qui ont fait un excellent travail et qui donnent une excellente, édition critique de ses œuvres, en moyenne anglais, qui eux voient tout de suite une religieuse. Ce sont des religieux qui voient une religieuse. Par contre, autre, elle est aussi religieuse, mais c'est quelqu'un de, engagé très différemment, qui est une femme professeure à Oxford. Elle voit tous les signes d'un laïcat et vraisemblablement peut-être même d'une femme qui a eu des enfants, qui s'est retrouvée veuve et a perdu ses enfants au moment de la peste. Donc, ce qui est intéressant dans des personnages comme ça, c'est que finalement, il y a une grande part de subjectivité et d'interprétation personnelle, hein, si vous voulez. On a des éléments historiques, mais après, chacun interprète un peu. Bon, moi, le fait qu'elle soit laïque me va assez bien, si vous voulez. Ça correspond quand même vraiment à ce mouvement de renouveau et cette ferveur laïque très, très spécifique de cette époque-là.
Une recluse, vous avez dit. Qu'est-ce que c'est, une recluse ?
Alors, une recluse, c'est une femme qui... Alors, il y a des recluses, hein, aussi, c'est pas exclusivement féminin. Ce sont des personnes qui choisissent de vivre une vie en Dieu dans l'espace d'une cellule. C'est-à-dire que l'entrée en réclusion s'apparente à un enterrement, à une liturgie de funérailles, si vous voulez. La personne va se retrouver murée dans un petit espace, ça dépend, il y a des espaces quelquefois un petit peu plus larges, et va choisir de vivre sa vie de prière, de pénitence, puisque c'est un thème qui est assez présent quand même dans le monde des recluses, dans cet espace-là, sans en sortir. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est la symbolique, hein, cet espace-là renvoie au tombeau du Christ, c'est-à-dire c'est le lieu où l'on meurt à l'homme ancien pour renaître à l'homme nouveau. Hein. C'est un processus qui n'est pas du tout morbide, enfin, en soi, c'est vraiment ce désir de mourir avec le Christ pour renaître avec lui pleinement.
Ça veut dire qu'elle s'enferme, elle n'a aucune communication avec l'extérieur, ou au contraire, elle est au milieu de la ville de Norwich ?
Elle est au milieu de la ville de Norwich, si vous voulez. Et alors, il faut savoir que les recluseries ou les reclusoirs avaient deux fenêtres en général. Une fenêtre qui donnait sur une petite chapelle d'où le reclus ou la recluse pouvait assister aux offices. Et puis, une fenêtre qui donnait sur la rue où les gens venaient lui apporter des vivres ou venaient chercher des conseils spirituels. Et en fait, quand vous regardez les textes, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de mise en garde contre le bavardage par rapport aux reclus ou aux recluses, en disant faites attention de ne pas entrer dans un bavardage. Si un accompagnement spirituel, c'est normal, hein, vous êtes là pour ça, mais soyez très vigilant ou vigilant, si vous voulez. Et c'est vrai que si quelqu'un vient se poser devant votre fenêtre et vous raconte tous les potins du village, c'est vrai que c'est difficile de se défendre, entre guillemets, ou de recadrer, etc. Donc c'était vraiment... On se rend compte que les reclus et les recluses, alors, il y a pas mal de documents là-dessus, ainsi que les ermites au Moyen-Âge anglais, c'est surtout cette période-là, mais c'est pareil en France, avaient des réseaux sociaux. Si vous voulez, c'est comme un peu dans l'érémitisme aujourd'hui, vous avez des ermites qui ont des relations et des ermites qui n'en ont quasiment pas. Alors voilà, c'est tout. Donc, on peut pas, il n'y a pas de, comment dire, le cliché de la recluse qui ne voit personne, ce n'est pas juste, ce n'est pas justifié. Certaines ont dû être très seules, mais d'autres, la plupart du temps, avaient un minimum de relations, ne serait-ce qu'avec les gens qui leur apportaient du vivre.
Oui,
voilà. Et puis, elles étaient vraiment un espace, un lieu de conseil spirituel et d'écoute spirituelle et d'écoute aussi humaine, parce que les gens venaient leur raconter leur malheur, hein, pour les confier à leur prière, si vous voulez.
Oui, parce que ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que finalement, ils dépendaient, ces reclus ou ces recluses, elles dépendaient de, finalement des autres pour leur nourriture,
oui.
puisqu'elles devaient, elles ne pouvaient pas sortir. Et donc, on n'est pas du tout dans des personnages que personne ne voit. Au contraire, c'est des personnages publics, connus, comme vous dites, qui font du conseil spirituel en fait.
Voilà, qui à la fois sont cachés d'une certaine façon, parce que la fenêtre est en général assez haute pour que, voilà, mais en même temps, il y a une relation avec l'extérieur. C'est un peu, une espèce de fournaise, la fournaise ardente, je dirais, si on prend cette image-là, où la recluse vit quelque chose spirituellement, mais ce quelque chose, finalement, a une répercussion sur l'extérieur. Et au Moyen-Âge, c'était un état de vie qui était assez valorisé. En anglais, il y a un jeu entre l'ancre, encore, et anachorète, l'ancrine. Donc, si vous voulez, vous avez un jeu, on le considérait comme l'ancre de l'Église, si vous voulez. Vous avez une très belle image dans l'Épître aux Hébreux, où on dit que... où on parle de l'ancre qui pénètre par-delà le voile, c'est-à-dire c'est la foi qui est cette ancre solide. Et en fait, le reclus ou la recluse était considéré comme une ancre, c'est-à-dire qui permettait au bateau de ne pas sombrer dans les tempêtes. Vous voyez, elle était considérée de cette façon-là.
Merci
par
beaucoup.
Prière.
Merci ouais. beaucoup, Sœur Emmanuelle Billotto. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Julienne de Norwich, recluse et mystique. Je vous propose que la semaine prochaine, vous nous expliquiez ce qu'elle voit, parce que c'est une mystique visionnaire, et donc on parlera de ses visions. À la semaine prochaine.
C'était Église d'aujourd'hui, une émission de Régis Burnet que vous pouvez retrouver en podcast sur le site internet rmc.fr.